Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Un temps pour soi, pour les autres et pour la planète. Bienvenue dans votre quart d'heure lyonnais engagé. Les titres, les fortes chaleurs sont de retour à Lyon. La réouverture partielle du parc de la Tête d'Or. Nouvelle victoire judiciaire pour rue 89 Lyon face à Aulas. Des fouilles archéologiques qui révèlent un pan méconnu de l'Ogdenum. Et puis mon invité, Rachid Azizi, ex-commandant divisionnaire. Son livre s'intitule « 1 sur 1 million », le récit poignant de 40 ans de carrière au cœur de la police nationale.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vague de chaleur à Lyon pour la fin de la semaine. Des températures de plus de 35 degrés sont annoncées sur la capitale des Gaules à partir de vendredi et sans doute jusqu'à lundi. Météo France prévoit 25 degrés vendredi matin, puis 36 degrés au maximum l'après-midi. Un écart avec les températures de saison de plus 8 degrés. Un été sous haute tension électrique également. Selon le bilan publié par Météorage, la France se classe deuxième pays le plus foudroyé d'Europe cet été, juste derrière l'Italie, avec 244 000 éclairs nuages sol recensés entre juin et août. Si le volume global n'est pas un record absolu, c'est la violence des épisodes qui marque la saison. La seconde moitié de l'été a été particulièrement virulente. Le seul mois d'août concentre près de la moitié des impacts, accompagnés de grêles, des vents destructeurs et même d'une tornade dans l'Aude. La journée la plus meurtrière reste celle du 16 juillet où deux personnes ont perdu la vie, dont une en Isère. Notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, monte sur la deuxième marche du podium national avec près de 40 000 éclairs, devancés seulement par la Nouvelle-Aquitaine. Nouveau coup de chaleur hier après-midi dans les Monts du Lyonnais. Un incendie s'est déclaré vers 15h30 dans la forêt de Polyonnais, près du chemin de Mercruy. Dans cette zone difficile d'accès, 2000 m² de sous-bois très secs sont partis en fumée. Pour éviter toute propagation, les secours ont déployé d'importants moyens, 38 sapeurs-pompiers et 17 engins mobilisés sur place. Un sinistre qui rappelle la vulnérabilité extrême du massif face à la sécheresse. Dimanche dernier, c'est à Brucieux que 1500 m² brûlaient à cause d'une simple étincelle de bricolage. Plus tôt, en août, Vaumurey voyait 2,5 hectares de forêt détruits malgré l'intervention de plus de 80 pompiers et de 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Les autorités appellent une nouvelle fois à la plus grande prudence dans le secteur. Le parc de la Tête d'Or ouvre ses portes ce mercredi, 5 jours après le violent coup de vent de vendredi dernier. Le poumon vert de Lyon panse encore ses plaies. Le bilan est lourd. 66 arbres ont été lourdement endommagés par les rafales, obligeant les équipes municipales à mener d'importantes opérations d'élagage et d'abattage d'urgence. Si les Lyonnais peuvent de nouveau s'y promener, plusieurs zones restent strictement interdites au public dans le parc. Toute la partie nord du parc de la Tête d'Or, l'allée des joggeurs près de la Cité internationale, les sous-bois et l'île aux souvenirs. La municipalité appelle à la plus grande prudence, des branches fragilisées et des arbres menacent toujours de s'effondrer. Consigne absolue pour les promeneurs, respecter les périmètres de sécurité.
Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain.
Le maire Grégory Doucet est à l'école maternelle Louis Pradel dans le 6e arrondissement hier matin pour accueillir 180 élèves. Une rentrée dans une cour désormais végétalisée à l'image des 150 chantiers menés dans les établissements de la ville cet été. Au total, 350 millions d'euros ont été injectés dans le plan éducatif sur l'ensemble du mandat. Un investissement inédit. Autre priorité affichée, l'accueil des élèves en situation de handicap. Près de 1500 enfants sont actuellement accompagnés à Lyon. Un suivi que la municipalité souhaite encore renforcer. Enfin, la rectrice a tenu à saluer l'engagement de l'école contre le harcèlement scolaire. Les affiches réalisées l'an dernier par les CM2 de l'établissement ont été doublement primées dans le département. Nouvelle victoire judiciaire pour rue 89 Lyon face à Jean-Michel Aulas. La cour d'appel de Lyon a confirmé la relaxe du média indépendant poursuivi en diffamation par l'ancien patron de l'OL et son fils Alexandre. L'affaire remonte à octobre 2023. Le site local publiait alors une enquête sur la société américaine d'aviation d'affaires Ambassair, cofondée par l'homme d'affaires lyonnais. Après une première décision favorable en janvier dernier, la justice valide une nouvelle fois le travail d'investigation de la rédaction. Seul bémol pour le directeur de publication Pierre Lemerle. Contrairement au premier jugement, la famille Aulas n'aura finalement pas à rembourser les frais d'avocat engagés par le média, soit plus de 3000 euros. Cette longue procédure de près de 3 ans n'est toutefois pas totalement close. Jean-Michel et Alexandre Aulas peuvent encore former un pourvoi en cassation. Alléger ses poubelles tout en nourrissant son jardin, c'est l'objectif de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Pour encourager le compostage, l'accord organise une nouvelle distribution de composteurs individuels à destination des habitants des 31 communes. Pour 20 euros seulement, chaque foyer pourra acquérir un modèle en bois de 300 litres fourni avec un bio-seau pour collecter facilement les épluchures en cuisine. L'offre est limitée à 2 bacs par foyer. La remise du matériel aura lieu le 26 septembre, mais les réservations sont obligatoires et se clôturent le 18 septembre. Pour réserver plusieurs options, dont une en ligne sur ouestrhodanien.fr.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Tu n'as qu'une chance sur 1 million, c'est la phrase qu'on a répétée à mon invité au début de sa carrière. Et pourtant, 41 ans plus tard, il a gravi tous les échelons de simple gardien de la paix à commandant divisionnaire de police. Bonjour Rachid Azizi.
Bonjour Gérald Bouchon.
Vous publiez un ouvrage qui s'appelle 1 sur 1 million, un témoignage poignant et sans filtre sur les coulisses de la société et de la police nationale. Pourquoi avoir choisi ce titre 1 sur 1 million? On a parlé un petit peu dans l'intro.
1 sur 1 million. C'est l'expression de mon père à qui j'apprenais que je souhaitais rentrer dans la police alors que j'étais bien jeune. Et dans sa, je ne sais pas si on peut dire de naïveté, en tout cas dans sa culture, et vu qu'il n'y avait pas de policiers dans la famille, il eut pour réponse « ils n'en prennent que 1 sur 1 million ». Voilà, et j'avais trouvé cette formule assez forte, qui ne m'a pas d'ailleurs découragé, puisque j'ai quand même passé le concours.
Et réussi.
Et réussi, oui.
C'est une marque de fierté ou le constat d'une forme de déterminisme social qu'il a fallu combattre ?
Je dirais les deux, mon général. Je pense que, oui, le déterminisme, je pense que, voilà, quand on se fixe un cap et quand on veut l'atteindre, eh ben, on se donne les moyens. On ne sait pas vraiment au départ, parce qu'on est soi-même, on n'a pas suffisamment d'expérience. Et puis ensuite, il y avait peut-être ce besoin de se prouver à soi-même que l'on peut réussir, même s'il y a des milliers et des milliers de personnes qui passent le concours. Et puis de rentrer dans un environnement qui n'est pas forcément familier. Je vous parle ça des années 80 quand même. Et finalement, quand on réussit, on veut, j'allais dire presque, honorer la place que l'on occupe. Et ça a toujours été un peu mon fil rouge au cours de ces 41 années d'administration.
Vous êtes entré dans la police, comme on dit, par la petite porte, sans pire. Piston, ni réseau. Non. Qu'est-ce qui vous a poussé au tout début à enfiler l'uniforme ?
Je crois qu'il y avait chez moi, dans mon mode de fonctionnement, une forme de fascination envers des gens qui représentent, que ce soit l'autorité publique, qui représentent une fonction même régalienne d'une manière générale. Et je trouve que la police était vraiment, symbolisait tous ces éléments-là et participait justement à cette vision que j'avais de l'autorité et du rapport que j'avais envers cette autorité. J'étais toujours d'ailleurs très respectueux, très bon jeune homme, bien sous tout rapport, comme on dit.
On voit souvent la police à travers des prismes, à travers les séries télé, à travers aussi certains faits divers, certaines images chocs qu'on voit à la télévision, qu'on écoute à la radio. Dans votre livre, vous parlez surtout de la détresse humaine du quotidien. Quelle est la réalité de la rue qu'on ne voit pas forcément aux actualités ?
Tout à fait. Ben, c'est à peu près ce que vous avez dit dans votre introduction. Moi j'ai appelé ça souvent les coulisses de la société, c'est-à-dire que vous voyez des choses que le commun des mortels ne voit pas forcément. Alors il le voit quand il est directement concerné, mais il n'a pas la même appréhension qu'on peut avoir en tant que policier. Je m'explique. Quand vous êtes sur scène, vous êtes face à un public, vous êtes visible. Quand vous êtes dans le public, vous êtes là aussi dans une place qui vous est attribuée. Lorsque vous êtes dans les coulisses, vous voyez ce que les gens ne voient pas. Vous êtes dans un angle, presque un angle mort, si je puis dire, et vous voyez toutes ces situations de détresse, parce que c'est aussi ça, le quotidien du policier.
Des exemples concrets, Rachid ?
Alors, des exemples concrets, je dirais le fait d'intervenir chez quelqu'un à l'occasion d'une perquisition, où vous perquisionnez, c'est-à-dire vous fouillez dans l'appartement de la personne.
À 6h du matin.
À 6h du matin, ou parfois à d'autres heures, mais c'est vrai, souvent à 6h du matin, c'est plus simple pour nous. Ça vous permet de découvrir des choses qui parlent de la vie de la personne chez qui vous vous introduisez. Il y a cette notion de un domicile est inviolable. Et le fait de rentrer chez une personne et de découvrir son, non seulement son quotidien, mais son intimité, de la découvrir telle qu'elle est, c'est aussi quelque chose qui vous fait réfléchir sur votre propre conception des rapports interpersonnels, par exemple.
Vous racontez notamment cette expérience que vous avez menée sur les contrôles d'identité, que vous avez voulu à un moment inverser.
Oui, j'avais fait, il y a de cela très longtemps, au tout début de ma carrière, j'avais constaté qu'effectivement, il existait des contrôles qui étaient orientés envers une certaine population, pour ne pas les désigner, Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. Et je m'étais posé la question, je m'étais dit, comme j'étais un peu joueur, un peu peut-être taquin aussi, j'avais décidé moi-même de faire ce qu'aujourd'hui on appelle d'ailleurs le testing, à tester mes camarades, mes collègues, en moi-même, en procédant à des contrôles de personnes, mais qui ne correspondaient pas au profil qu'ils avaient eux-mêmes déterminé au départ. L'idée était de créer une sorte de électrochoc, et je contrôlais des personnes âgées, blanches, voilà un peu le profil, voilà quel était mon cahier des charges. Et j'ai très vite vu la réaction de mes collègues qui ne comprenaient pas ma réaction, qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. Je dis « ah bon, très bien », je faisais le naïf naturellement, et je reprenais de plus belle et je refaisais le même type de contrôle de personnes âgées. Quand je vous dis de personnes âgées, pardon, mais c'est 80 ans quand même, c'était très délicat pour moi, il fallait que je prenne sur moi. Mais par contre, j'y intégrais une autre donnée qui était celle de prendre des personnes avec un issu des ce qu'on appelle les minorités visibles d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord, et ils avaient la même réaction. Ce qui me faisait dire que ce n'était pas forcément ce qui apparaît tout de suite comme slogan, cette idée que la police serait de façon systémique raciste, etc. Mais ça révélait une sorte de profilage racial, alors racial quand même, qui était une sorte de réflexe. C'est là-dessus qu'on devait se poser la question, et non aller sous l'angle de rechercher sous l'angle de est-il ou pas raciste. J'ai envie de vous dire, quand vous commettez une infraction, le mobile est intéressant, mais il n'est qu'un mobile. Donc le but était de comprendre qu'est-ce qui conduisait un fonctionnaire de police, par exemple, à procéder à des contrôles qui sont liés justement à des profilages raciaux. Et l'idée, c'était aussi ensuite d'en parler avec mes collègues. Et je vous parle de ça il y a très longtemps, j'avais moi-même tout juste une vingtaine d'années, et c'était intéressant de pouvoir échanger avec eux. Parce que tout d'un coup, il y avait de l'échange, et on pouvait dire, ah bah oui, c'est vrai que là-dessus, on n'a peut-être pas été forcément très bon. Donc qu'est-ce qui nous a conduit à procéder à ce type de contrôle?
En 41 ans, justement, comment vous avez vu l'institution évoluer? Qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier de policier entre les années 80 et aujourd'hui?
Quand je suis rentré dans la police, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait intégré le code de déontologie, ce qui était quand même un terme qui n'était pas forcément très connu par les policiers de l'époque. La déontologie, une sorte de ligne de conduite que les policiers devaient suivre.
Alors, le policier a plutôt l'habitude d'imposer une ligne de conduite.
Oui, c'est-à-dire que plutôt dans ce sens-là. Et puis surtout, on applique la loi, le policier applique la loi. Alors comment allons-nous créer une sorte de règlement, de code, le codifier le comportement des policiers? C'était quelque chose que je ne comprenais pas, alors que j'appliquais parce que j'étais un bon soldat, mais tout d'un coup je comprenais. Alors pour moi c'était plus facile parce que finalement je l'intégrais au moment où je rentrais, mais les autres vraiment avaient les plus anciens, je dirais, avaient plus de difficultés, considérant que c'était vraiment un accessoire peut-être politique. Mais moi je m'en suis vraiment fait une sorte de doit-on être hors de tout soupçon quand on occupe ces fonctions, la puissance publique, l'autorité publique, le fait de pouvoir interdire à une personne d'aller et venir, quand même, ce sont quand même des droits fondamentaux, de se dire que tout pouvoir doit nous obliger aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup, beaucoup animé au début de ma carrière et jusqu'à présent, bien sûr.
Et vous avez travaillé notamment au sein de la HALD, on peut peut-être rappeler ce que c'est la HALD.
Alors la HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui était une autorité administrative indépendante qui a maintenant fusionné depuis 2011, je crois, au sein du Défenseur des droits, et j'ai été en détachement au sein de cette institution. Pour vous donner un exemple, j'ai pour ma part élaboré le guide pratique de lutte contre les discriminations en lien avec la direction à l'époque de la formation de la police nationale, où nous avons pu intégrer justement des éléments des procès-verbaux, par exemple, toute la législation existante en matière de discrimination, pour pouvoir permettre à ce que tous les policiers puissent prendre des plaintes de discrimination, être capables de les analyser, de constituer l'infraction, comme on dit, afin de pouvoir les transmettre à la justice qui décidera par la suite.
Et votre parcours a nourri votre réflexion là-dessus ?
Oui, ça a nourri vraiment ma réflexion. Je crois que, voilà, quelqu'un m'avait dit au tout début de ma carrière, lui était un commissaire divisionnaire qui partait à la retraite, et moi j'étais un jeune gardien de la paix qui rentrait dans la police. Il m'avait dit, c'était cette expression qui m'est toujours restée, c'est que la police est la meilleure agence de voyage. Et je crois que c'est ce que ça m'a apporté. Je me suis, dès que j'ai vu une opportunité, une situation qui me permettait d'évoluer, en tout cas de comprendre aussi la nature humaine, puisqu'on rentre dans l'intimité des gens, je vous parlais tout à l'heure des coulisses de la société, et ben ça m'a permis vraiment de pouvoir de découvrir l'individu dans son environnement, dans son écosystème, et de pas uniquement voir le délinquant ou la victime. La victime a une vie, le délinquant aussi, il est délinquant parce qu'une situation s'est présentée, un contexte, sans l'excuser, je ne suis pas là pour ça, mais chacun son rôle. Et je crois, là aussi, ma réflexion qui a été nourrie au fil de toutes ces décennies, c'est celle de dire, le policier doit être dans son rôle d'appliquer la loi dans la mesure des possibles, de faire de la procédure. Il ne fait pas que du judiciaire, hein, il fait bien d'autres choses, de l'ordre public, enfin, et la justice est là pour juger. Mais parfois, ce mélange des genres fait que tout d'un coup, on a une tendance un petit peu à extrapoler. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup animé. Je considérais que je devais être à ma place, et ça me convenait très bien d'être à ma place.
Ouais, écoutez l'intégralité de l'interview de Rachid Azizi sur notre site internet. Rachid Azizi, auteur du livre « 1 sur 1 million ». Un saut de 2000 ans dans le passé, en plein cœur de Lyon, sous le bâtiment Néret, sur les pentes de la Croix-Rousse, des fouilles archéologiques viennent de révéler un pan méconnu de l'antique Lugdunum, à deux pas de l'amphithéâtre des Trois Gaules. Les chercheurs ont mis au jour les vestiges du quartier de Condat, un mur de terrasse du 1er siècle, un égout maçonné, mais aussi les restes d'une maison détruite par un incendie vers l'an 120, puis reconstruite. Trouvaille plus rare encore, l'emplacement d'un petit hôtel domestique où reposaient une lampe à huile, des coquilles d'huîtres et des os de poulet. Pour découvrir ce chantier, la ville de Lyon ouvre exceptionnellement les portes au public les mardis de septembre et lors des journées du patrimoine. Les visites d'une heure sont gratuites, uniquement sur réservation via le site de la ville de Lyon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition.